Anaïs Flamini, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à la Foire du Livre à Bruxelles. Paris 1999, c'est votre année de naissance. J'ai dit, mais comment une jeune fille aussi sage, apparemment en tout cas, qui n'a même pas 30 ans, est-elle venue à côtoyer les chefs les plus sanguinaires de la mafia ?
J'ai grandi avec des grands-parents et des parents qui déjà lisaient beaucoup de polars et regardaient beaucoup de films, donc j'ai grandi avec leur bouffe et comme ça j'ai pu développer les miens petit à petit. Ça a commencé avec Le Clan des Siciliens quand j'étais petite, j'ai fini par graviter sur un peu tous les classiques, sauf Les Sopranos que je n'ai toujours pas fait, pas encore, mais ça viendra. Et ensuite, mon goût s'est affiné avec les romans que j'ai fini par lire, découvrir. Et comme on m'a toujours un petit peu laissé choisir mes lectures et mes films, j'ai pu rentrer un peu dans cette porte par des choses qui m'intéressaient pour ensuite aller sur des choses de plus en plus spécifiques, avec l'ambition de parler avec autant de justesse qu'un homme de 50 ans de ce genre de sujet.
Oui, je ne dirais pas mon âge. une des répliques, merci à mes parents pour retrouver le diable dans les détails, même s'il est bien caché. C'est aussi valable pour vous ?
Bien sûr, je pense que pour ne pas jouer sur les clichés de l'astrologie, je suis née en septembre et je suis un cliché pur du signe de la Vierge. J'ai grandi en ayant toujours le besoin de bien faire, ça s'est toujours traduit dans mon travail. Mes parents sont aussi artistes, donc tout de suite ils m'ont donné le goût de la curiosité, le goût de me diversifier, et ils m'ont aussi toujours accompagnée, forcément avec un regard de parent qui a envie que son enfant fasse bien. Et je pense que cette exigence a été quelque chose de très positif dans mon évolution en tant qu'artiste, où j'ai toujours cherché le détail qui coince, la petite chose qui manque, et du coup avec un peu cet instinct de me dire quand je sens que c'est bon, mais s'il me manque quelque chose, je vais chercher ce que c'est. Et mes parents ont pu toujours m'accompagner avec ça, avec ce regard sur le détail. Et pour l'anecdote, quand j'avais montré une des pages de la fin à mon père où il y a une voiture, une Mustang 1965, une des choses qu'il m'a répondu, c'était pas « c'est bien ma fille », c'était « les rétros, c'est pas la bonne taille ».
C'est bien.
Donc c'est bien. J'ai un regard pour le détail.
Une critique positive, quoi.
C'est ça.
Alors, en parcourant votre BD, on a l'impression de vivre en cinémascope, avec une sensation de revoir des classiques du genre, trilogie du Parrain, Scarface, French Connection, Marseille, années 60. C'est vos films, ou vous en avez d'autres, des références ?
Pour cet album, j'adore le cinéma et j'ai toujours voulu qu'on puisse lire mes BD comme un film. C'est un des commentaires qu'on me fait qu'il y a un découpage un peu cinématographique et ça me fait très plaisir parce que c'était aussi la volonté du récit. Et forcément, j'ai grandi avec les classiques du genre, avec Le Parrain, avec Le Clan des Siciliens comme je disais, Scarface, pas Les Sopranos, sur écoute. Et c'est quelque chose qui me plaisait, pouvoir retrouver des codes d'époque, parce que ce qui est intéressant avec la mafia plus à l'ancienne, donc on va dire du milieu du XXe siècle jusqu'au début du XXIe, c'est qu'on est dans des clichés et des choses qui restent un peu accessibles et moins violentes que ce qu'on peut imaginer avec la mafia d'aujourd'hui, qui est un peu plus crue et avec plus les codes très traditionnels, les beaux costumes. Donc une porte d'entrée pour pouvoir découvrir cet univers-là, c'est aussi de jouer sur le côté pop culture, le côté connu, les films, les iconographies qu'on a dans l'imagerie populaire. Et pouvoir repasser par des références de ces films aussi, ça permet aussi peut-être d'identifier des codes et de pouvoir rendre le récit accessible à tout le monde. Moi aussi, ça me fait plaisir parce que c'est des films que j'aime.
Mais en fait, quand on a toutes ces scènes mythiques en mémoire, est-ce que c'est pas difficile de s'en détacher pour éviter de faire un bête copier-coller ?
Je pense que ce qui est intéressant, et c'est ça avec n'importe quelle adaptation ou n'importe quelle inspiration, c'est que ça a été fait avant. Donc comment est-ce qu'on le fait à sa sauce ? Et ce qui est aussi très chouette, je trouve, avec à chaque fois des générations d'autoristes ou même d'artistes en général qui arrivent, c'est qu'on a grandi avec ces médias-là, et donc on sait ce qui nous plaît dedans, et on sait aussi ce qu'on aurait voulu faire différemment ou lire en grandissant. Et je pense que c'est ça que beaucoup d'autoristes de ma génération ont, c'est qu'on a ces références-ci, et on se dit quelle histoire j'aurais aimé lire à ce moment-là, et c'est cette histoire-là qu'on va écrire. Donc j'ai adoré les polars, j'en ai vu ou lu plein, surtout écrits par des hommes. Et du coup,
Mario Puzo.
Et je me suis dit, bon, quelle chose j'aurais vu différemment. Étant aussi une femme queer, j'aurais bien aimé voir des histoires LGBT aussi. Donc j'ai juste mis tout ce qui me plaisait, ce qui me paraissait très évident en fait d'écrire en grandissant.
Mais par contre, on a vraiment l'impression que vous avez voulu casser les codes. Et est-ce que c'est votre nature de femme qui a fait exploser, qui voulait faire exploser cet univers masculin?
Je ne pense pas forcément que ce soit une histoire de nature de femme, mais je pense qu'il y a une... De mon côté, du moins, il y a une fatigue un petit peu de voir que certains pensifs, surtout dans ce genre de récits ultra masculins et qui ont surtout été écrits par des hommes. Je sais qu'il y a beaucoup de romans, en fait j'ai même pas pu les finir parce que l'histoire était bien mais les personnages m'en supportaient ou c'était trop misogyne. Il y a beaucoup de films que j'aime mais il y a tellement de choses dedans qui me dérangent que j'ai du mal après à les apprécier encore plus en grandissant. Et je pense qu'il y a cette volonté de lire ou de voir autre chose parce que n'importe quel genre peut être intéressant mais je veux pas dire mal écrit mais trop utiliser certaines tropes ou certains ressorts scénaristiques, ça peut être très fatigant. Donc je pense qu'il y a une volonté, peut-être en tant que femme, de voir autre chose, mais je ne pense pas que ce soit exclusif ou une histoire de nature de femme. C'est plutôt, ayant aimé ce genre, j'avais envie d'apporter quelque chose que j'aurais aimé découvrir en plus.
C'est ça.
Et comme les retours que j'ai, bah, c'est comme vous dites, l'idée de changer les codes, d'avoir un peu détourné le côté super masculin qu'on peut avoir avec les images de la pègre, je me dis qu'en fait c'est efficace et peut-être que ça donnera envie à d'autres auteurices qui vont le lire, se dire « Ah, en fait, on peut faire ça » et continuer d'écrire à leur histoire à leur sauce et faire encore des trucs géniaux qui vont explorer d'autres choses.
Dès le départ, vous aviez en tête de parler d'homosexualité dans le milieu de la mafia ?
Oui, c'était tout de suite... Ouais. En fait, j'avais déjà cette histoire où l'histoire d'amour était importante à l'intérieur et ça m'avait paru très très évident de le faire. J'ai grandi avec Internet, j'ai grandi avec des fanfictions, avec bah, du coup, en grandissant dans une communauté LGBT sur Internet, écrire ce sujet, ça m'avait semblé très évident. En le présentant, je ne m'étais même pas posé la question qu'on pourrait me dire « Oh, mais c'est hautement irréaliste,
hein, mais c'est pas faisable. » Parce que finalement, regardez, dans les westerns, ça a été aussi un choc quand on a fait rentrer l'homosexualité dans cet univers quand même.
Je pense que dans les genres qui ont été très dominés soit par l'imaginaire masculin soit par les auteurs masculins, le fait qu'on montre autre chose que ce qui a été très très on va dire très très construit, ça peut paraître choquant parce que c'est un petit peu nouveau ou parce que ça bouscule justement ces codes là donc moi je trouve ça très chouette en fait. Mais du coup je trouve ça génial quand ça arrive parce que déjà évidemment ça a existé, hein, on va pas se mentir, mais du coup ça change et ça fait que ces genres-là vont être ouverts à d'autres choses et d'autres types de récits qui au final vont devenir très banals pour la meilleure des raisons.
Bon, c'est un récit qui couvre plusieurs décennies. Mm-hmm. Est-ce que ça vous a amené à créer une ligne du temps avec certains repères justement d'époque où vous aviez en tête certaines étapes à franchir, une façon de s'habiller, peut-être la façon de parler, de se comporter. Donc, est-ce que vous aviez vous-même établi cette ligne du temps et avec des étapes, des passages obligés ?
En fait, comme ça se déroule de la fin des années 40 jusqu'au début des années 60, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer, en même temps qu'un personnage qui va commencer jeune et qui va grandir, le faire évoluer en même temps que cette période charnière dans la mafia du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, où il va y avoir énormément de bouleversements, et avoir un personnage jeune qui va grandir et mûrir en même temps, c'était en fait très très linéaire. Donc j'ai construit l'histoire avec une sorte de grosse frise chronologique, avec un petit peu les repères clés de chaque chapitre, des scènes qui me semblaient importantes et des recherches historiques donc sur les vêtements parce que j'adore la mode historique et pouvoir montrer le changement du personnage en même temps que les vêtements ou pour les gens qui sont aussi obsédés que moi par la mode, dire ah oui, le costume a changé, on est en 1950. Mais c'était aussi...
Même la psychologie des personnages.
Oui, c'est ça, pouvoir les représenter avec tout le design d'époque que je trouve super intéressant aussi. Et c'était aussi chercher historiquement des choses qui se sont vraiment passées pour que l'histoire reste crédible, pour voir si c'était des choses qui pouvaient arriver à l'époque. Donc c'était un peu des repères, des choses. Je voulais que ça arrive pour que ça structure le récit de manière cohérente.
Alors, sujet glaçant, et d'un autre côté, vous présentez ça avec des couleurs, peut-être un... Je ne vais pas dire roman à l'eau de rose, mais gravure de mode. Est-ce que c'est votre pudeur qui fait que vous essayez de vous dégager ou de faire passer justement l'atrocité du sujet ?
Je pense que on n'a pas besoin de montrer les choses de manière frontale et directe pour être glaçant. Et souvent, avoir une certaine retenue, une certaine pudeur va rendre des choses terribles encore pires. Et j'aime beaucoup un peu ce côté de se dire, on va montrer et rien dire, parce que c'est mieux que dire et ne rien montrer, mais surtout un peu comme on dit dans les films d'horreur, c'est meilleur quand on voit pas le monstre. Et comme l'histoire est aussi vue du point de vue du personnage principal, qui au début est jeune, peut-être naïf, un peu moins qu'on ne le pense, mais quand même il a des espérances, il est jeune, il a des rêves, beaucoup de choses qu'il va faire. Pour lui c'est un métier. Et on le voit par ses yeux, c'est pas encore horrible. Et du coup, avoir ce décalage de gens qui font des choses atroces, c'est des ordures, mais pour eux, c'est normal. Ça crée un décalage qui est encore plus intéressant.
Aussi, oui. C'est vrai qu'il y a quand même un abîme entre le fond et la forme, chez vous.
Oui.
C'était bien déterminé dès le départ.
J'avais tout de suite envie d'avoir ce côté très épuré, déjà pour des raisons de temps, pour des raisons de lisibilité aussi, parce qu'avoir un dessin trop chargé, peut-être trop saturé en noir, ce genre de choses, ça aurait rendu le tout illisible. Et aussi parce que j'aime ce côté très lumineux, très coloré, et au final raconter des choses très dures. Il y a un auteur de polar que j'aime beaucoup, qui s'appelle Don Winslow, et qui a une écriture vraiment cinématographique. Et en fait, quand il se passe des choses horribles, il écrit comme si c'était normal. Et donc, il y a une scène terrible dans un de ses romans où un personnage est dans une voiture, dans un coffre, et ils disent « on va te ramener ». Et puis en fait, deux lignes après, ils ont balancé la voiture dans un lac, et puis ils disent « bon, on va chercher un sandwich ». Et ça se passe en deux lignes. Et il n'y a rien de spectaculaire,
c'est
parce que c'est comme ça,
c'est ça.
Et en fait, je trouve ça super d'avoir ce côté très, très pop, très accessible aussi peut-être dans le graphisme, et pouvoir parler de choses beaucoup plus dures.
Par contre, il y a un dossier intercalaire, là, qui est quand même assez violent. C'est un autre changement de ton.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a pris au plein milieu de passer carrément à l'enfer, quoi.
C'est ça qui est intéressant dans un personnage. Mais j'aime le fait que mes héros soient des gens qui soient faillibles, et que c'est en faisant des choses terribles aussi que parfois, malheureusement, on grandit. C'est en faisant des choix terribles que parfois les choses doivent bouger. Et je préfère avoir un personnage moralement gris qui fait des choses vraiment atroces plutôt qu'un personnage où tout va bien. On m'avait déjà demandé pourquoi je préférais les affreux aux parangons de vertu. Et en fait, c'est les gens terribles, c'est des humains. Avoir quelqu'un de parfait qui fait que des bons choix et où tout va bien se passer, ça m'intéresse parfois d'en lire, mais ça ne m'intéresse pas de le raconter. Et pouvoir avoir ce changement de narration, déjà, ça va être intéressant pour le lecteur, parce que l'histoire va pouvoir passer à un autre rythme, on va pouvoir raconter autre chose et se dire « Ah, mais en fait, tout l'équilibre qui a pu être instauré, il n'est peut-être pas tant que ça est là, et en fait, ça ne tient à pas grand-chose. » Donc, en plus, avec un graphisme où on ne s'y attend peut-être pas forcément, voilà, l'idée de pouvoir peut-être surprendre et se dire « Ah, en fait,
un choc.
Voilà, c'est le milieu est peut-être beaucoup plus cruel qu'on ne le pense », ça m'intéressait.
Alors, si au début du récit, votre personnage, Jules, apparaît comme un bon petit gars, assez vite, on va le voir se transformer. Et comme il dit, je sentais cette rage de réussir au plus profond de moi-même. J'avais de l'ambition. Et finalement, comme le lecteur, il va se découvrir, non ?
C'était ça en parallèle, donc, comme je disais tout à l'heure, avec la mafia qui va beaucoup changer entre la prohibition qui se termine dans les 1933 et les années 60, où on passe encore à une autre génération de mafieux, donc ils ne jouent plus avec les règles des parents. Ce personnage-là, qui en fait est de la nouvelle génération, il a de nouvelles idées, il a un nouveau souffle, il va être encouragé par un de ses amis, Euphrasio, qui lui est vraiment... c'est vraiment l'ambitieux de première qui a des nouvelles idées et qui fera tout pour y arriver. Pouvoir avoir un personnage qui se découvre et qui va se découvrir de nouvelles dynamiques, découvrir les choses qu'il aime, c'est ça qui est intéressant, parce que l'univers dans lequel il évolue n'est peut-être pas ce qu'il attendait au début. Il va découvrir des choses qui vont lui plaire ou pas. Et ce qui me plaisait aussi dans ce récit, dans la trame principale du personnage comme dans l'histoire d'amour, c'est de se dire peut-être que les choses que j'aurais voulu avoir ou j'aurais voulu qu'il m'arrive, ce que je pensais être le bonheur n'est peut-être pas ce qui me rend heureux. Et c'est un peu l'idée de la désillusion, et de se dire ah mais en fait tout ce que j'ai voulu dans ma vie, ça me rend malheureux, ça me plaît aussi.
Il y a un beau moment musical dans votre BD, Beyond the Sea. Pourquoi avoir choisi Bobby Darin?
Alors, au début, j'avais cherché juste pour le titre, j'avais pas d'idée de titre, donc j'avais cherché des musiques qui pouvaient me faire penser à l'histoire. Et ce que j'aime bien avec cette musique-là, donc Beyond the Sea, c'est qu'elle est adaptée de la version française de Charles Trenet, qui est une version romantique et puis plutôt positive. Alors qu'en réalité, la version américaine est une version beaucoup plus nostalgique. Là où la version française va parler donc d'un amour retrouvé et puis de gens qui s'y attendent, mais de manière très, très douce. La version américaine, elle est plus empreinte de nostalgie. C'est des gens qui sont loin, qui sont séparés, qui s'attendent sur un rivage et qui se retrouveront peut-être pas. Et donc l'idée d'avoir cette chanson là avec le thème de l'histoire m'intéressait. La chanson est présente aussi à deux moments distincts qui se font un petit peu écho. Et voilà, pouvoir avoir cette chanson là qui en plus tombe aux bonnes dates, j'ai bien fait mes devoirs, c'était important pour moi, surtout que je travaille beaucoup en musique. La musique, c'est hyper important dans mon travail et dans ma vie de manière générale. Donc pouvoir un peu
partager ça. T'as fait conservatoire quand même.
Oui, j'ai fait 11 ans de violoncelle. 11 ans de violoncelle, j'en ai bouffé. Et voilà, pouvoir avoir cette musique-là et avoir au moins une petite empreinte, c'était important pour moi aussi.
Quel est l'impact de la musique justement dans votre travail ? Vous avez une ambiance, vous créez un univers ou comment ça se passe ?
En fait, je travaille quasiment uniquement en musique. J'ai une playlist de cet album qui doit durer 20, 22 heures, 23 heures. Et il y a surtout des musiques de films, il y a aussi des musiques avec des paroles. Et en fait, je les enregistre tout le temps en pensant à certaines séquences et je les écoute en boucle. Parfois en faisant certains moments. Pour moi, il y a des musiques qui correspondent plus à d'autres. Et ma manière de travailler, c'est souvent de me faire une bande-son comme si ma BD était un film, et ensuite de caler à la lecture sur la musique pour que je trouve le rythme. C'est ça. Donc j'ai des. Si un jour c'est adapté en film, je sais qui je veux pour le compositeur, mais c'est ça qui m'intéresse. Il y a certaines séquences qui sont vraiment timées dans ma tête, seconde par seconde pour seconde, sur certaines musiques qui existent, parce que pour moi, c'est ça qui se passe à ce moment-là.
Anaïs Sagrand-Bassi, donc on rappelle Le Rivage Lointain, sorti aux éditions d'Argo, dans la collection, nouvelle collection, Combo. Merci.
Merci à vous.